Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Sophie est restée en couple pendant 10 ans, son premier amour avec qui elle a souhaité avoir un enfant. Après quelques mois, rien ne se passe. Un an plus tard, toujours rien. Alors Sophie et son copain commencent les examens pour savoir s'ils sont l'un et l'autre bien fertiles. Le parcours de PMA démarre, mais rien n'y fait et cela finira par séparer le couple. Sophie reste marquée par les nombreux protocoles très invasifs qu'elle a dû subir et reprend confiance petit à petit en elle et en son corps. Elle rencontre alors l'homme de sa vie, déjà papa de 2 enfants, et va rapidement devenir mère à son tour. Sophie n'avait donc aucun problème de fertilité. Pendant sa grossesse, elle se prépare à un accouchement physiologique en maison de naissance, mais le jour J, rien ne se passe comme prévu. Une césarienne plus tard, Sophie n'arrive pas à créer le lien avec son bébé et plonge lentement dans la dépression postpartum. Sa guérison ne se fera que 2 ans plus tard lorsqu'elle mettra au monde son 2e bébé, cette fois-ci mieux préparée à une nouvelle césarienne. Bonne écoute.
Bonjour Sophie.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci pour l'invitation.
Alors, tu es la maman de 2 enfants. Quel âge ils ont ?
Ils ont 5 ans et 20 mois.
D'accord, donc une deuxième maternité assez récente.
Oui.
Si tu le veux bien, on va revenir un petit peu à la genèse de ta vie de maman. Toi déjà, est-ce que plus jeune, c'était... quelque chose que tu envisageais, enfin dont tu rêvais, quel regard tu avais sur la maternité en étant petite fille?
Quand j'étais petite, je jouais à la poupée, je promenais une poussette avec un baigneur, ça me semblait logique, je n'avais pas imaginé d'autre chose possible que avoir des enfants comme mes parents avaient eu des enfants. Ouais. Donc ça me semblait être un chemin tout tracé. Et j'ai été en couple assez jeune. Enfin, j'ai rencontré la personne avec qui j'ai passé un peu plus de 10 ans quand j'en avais environ 20. D'accord. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais étudiante. Je savais que la question se poserait pas immédiatement. Mais à ce moment-là, j'étais toujours en lien avec ma correspondante allemande. Alors que moi, je faisais des études d'économie. Elle a démarré des études de sage-femme. Et nous avons eu un certain nombre de conversations où elle me parlait de ce qu'allait être son métier, et j'avais l'impression qu'elle me parlait depuis une autre planète, en fait. Qu'elle décrivait un métier, des pratiques, qui étaient radicalement différentes de ce que moi, à 20 ans, avec 0 copine, déjà maman, je pouvais connaître, ou avec juste les récits pauvres de femmes de ma famille, ce que j'avais mentalement conceptualisé de la grossesse et de l'accouchement en particulier, eh bien, c'était radicalement différent de ce qu'elle m'exposait. Alors, l'Allemagne, ça fait partie des pays où on accouche pas mal, si on le peut, à la maison. On médicalise moins qu'en France. Et les sages-femmes sont plus présentes, ou en tout cas présentes plus longtemps, dans l'idée d'un accompagnement un peu plus rapproché. Et donc, à partir de ces conversations-là, qui sont arrivées en gros quand j'avais la vingtaine, le début de la vingtaine, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la question de la naissance au sens large, à me demander comment ça pouvait être aussi différent entre 2 pays qui se touchent, à regarder un peu comment ça se passait ailleurs, dans les pays scandinaves notamment, dans d'autres pays aussi, à l'inverse des pays comme le Brésil, qui ont une conception encore très très différente. Voilà, j'ai commencé à rechercher, à comparer et à tendre l'oreille sur les témoignages que je pouvais entendre en me disant Ça m'a l'air normal, acceptable. Ça m'a pas l'air de l'être. Donc j'ai commencé à vraiment me documenter et en allant de temps en temps lire un papier sur le sujet, regarder un reportage là-dessus, écouter un témoignage de sage-femme. Mais donc ça, c'était il y a plus de 15 ans. Donc il y avait aussi moins de discours sur la question. Et puis j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu aux femmes qui affirmaient ne pas vouloir d'enfants, parce que je me disais, merde, si jamais moi j'arrive pas à en avoir, comment est-ce que je vais pouvoir l'assumer? J'avais cette peur là, cette superstition là en fait, que de ne pas tomber enceinte et de ne pas savoir comment l'expliquer, parce que je me disais, il n'y a pas d'autre, encore une fois, d'autres directions possibles que la reproduction, particulièrement quand on est dans un couple hétéronormé. Et alors que j'en étais à me dire comment est-ce que je pourrais justifier les choses si j'arrive pas à tomber enceinte, la pression familiale, amicale et sociale autour de mon compagnon et moi, le fait aussi qu'il était plus âgé et qu'il m'a dit en gros dès notre rencontre qu'il était pas pressé mais qu'il avait ultra envie d'avoir des enfants, tout ça fait que je me dis allons-y. Autour de moi, il commençait à y avoir des enfants. Donc là, moi, j'avais un peu plus de 25 ans. Et on se dit, allons-y, et ça marche pas. Ça marche pas pendant des mois. Et au bout d'un moment, on va consulter, on va voir une gynéco qui nous envoie faire plein de tests, enfin, c'est-à-dire plein pour moi et un seul pour lui. Et les miens, bien sûr, devaient démarrer au cycle suivant, alors que le spermogramme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on peut le faire instantanément. Donc, mon conjoint commence par faire cet examen avant qu'on fasse quoi que ce soit de mon côté. Et les résultats de l'examen nous disent où était le problème et nous disent aussi que le problème, en fait, n'est pas grave du tout, qu'il suffit de sélectionner les bons spermatozoïdes et que il y en a suffisamment et que donc avec un peu d'aide on y arrivera comme ça en claquant des doigts. C'est en tout cas ce que la gynéco dit parce qu'il se trouve que elle est spécialiste de l'infertilité. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a plein, mais en tout cas elle nous dit que ça se passera très très facilement, mais quand même il faut que je fasse tous les tests qu'elle a prévu que j'allais faire, y compris des choses horribles, genre l'hystérosalpingographie, qui est ce truc où on t'injecte un produit coloré dans les trompes pour vérifier qu'elles ne sont pas bouchées. Ça permet de faire apparaître un problème si justement le produit ne circule pas. C'est douloureux. C'est cher, mais quand on est dans le cadre de la... Mais très cher, genre, je sais pas, 300 euros ou un truc comme ça. Et quand on est dans le cadre de la PMA, c'est remboursé, mais c'est cher, c'est douloureux. Et en l'occurrence, moi, j'ai trouvé ça hyper humiliant. Ça fait partie des choses dont j'ai voulu me délester après. Donc, je les ai notées et des années plus tard, je les ai mises dans un livre pour qu'elles ne soient plus dans ma tête et qu'elles ne m'encombrent pas pour avancer. Voilà, ça fait partie de ces moments où un homme m'a dit... vous avez décidé d'avoir des enfants, donc ça, on n'a jamais dit que ce serait une partie de plaisir. Arrêtez de vous plaindre, quoi.
Ah oui.
Globalement, le genre de choses que j'ai entendu pas mal dans le cadre de mon parcours perso de PMA. Les examens que j'ai faits, moi, ont tous révélé que j'étais super fertile, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, ça confirmait bien que le problème, on l'avait identifié, hein, ce qu'on avait fait, donc... dans la semaine ou dans les 10 jours après être sortie de chez la gynéco. Malgré tout, donc je les ai tous faits, ces examens-là, et ensuite la gynéco est entrée en œuvre et nous a proposé de réaliser des inséminations à son cabinet. Et c'est ce qu'on a fait après bien sûr un traitement hormonal pour moi, des piqûres quotidiennes à l'épaule et un suivi échographique pour savoir à quel moment il était possible et c'était favorable de le faire, avec aussi la possibilité que du coup je sois enceinte de jumeaux, parce que à chaque fois j'avais plutôt qu'un seul œuf, deux qui apparaissaient. Et donc j'ai connu ce truc très bizarre où tu te désespères de ne pas réussir à avoir un bébé et où tu as des gens qui te disent, des gens du personnel médical qui te disent c'est l'enfer d'avoir des jumeaux. Et à ce moment-là, nous, on répondait que ça nous paraissait justement une sorte d'idéal, parce que en fait, ça voulait dire des bébés, quoi, et que on avait l'impression que c'était déjà compliqué d'en obtenir un. Donc, on avait l'impression qu'on essayait de nous décourager par rapport à ça. Et puis, nous avons fait comme ça plusieurs inséminations et qui n'ont jamais pris. Et plus ça allait, alors moi déjà, je me suis sentie totalement dépossédée de mon corps à partir du moment où je suis entrée dans ce processus de PMA, parce que ben en plus des médecins, des praticiens, ben il y avait les étudiants qui regardaient, il y avait ça vous dérange pas, c'était même pas ça vous dérange pas, c'est il y aura une telle qui est en telle année, etc. Et moi qui suis plutôt pudique là, j'avais dû faire complètement abstraction de ma pudeur pour obtenir ce que je voulais. Enfin, je me disais tant pis, je m'assois dessus pour enfin avoir un enfant. Mais en fait, c'était psychologiquement très très violent et ça a été compliqué entre ça et le fait que avec les piqûres d'hormones, l'hyperémotivité, j'enflais. Mais j'enflais aussi parce que je mangeais pour me remplir autrement, en fait, puisqu'il n'y avait pas de bébé qui arrivait. Et du coup, avec tout ça, je supportais plus mon corps, en fait. Je le reconnaissais plus. Et dans notre couple, on avait beaucoup de mal à se parler. Au début, on était tous les deux unis à faire front vers un objectif commun. Et puis en fait, les semaines passant, avec les échecs, ça nous a éloignés. On n'arrivait plus à se comprendre et on n'était plus sûr que ce projet-là était bien un projet commun. Et moi, il y a eu un moment où j'ai dit stop, en fait. Enfin, ça a pas été très difficile de faire accepter ce stop à ce moment-là. Je me suis dit, je reprends ma liberté, mais aussi le plein contrôle de mon corps. Il y avait vraiment cette idée-là, pour le coup, pas par rapport à mon compagnon, mais je voulais fermer la porte de tout ça et me retrouver moi, parce que je m'étais vraiment totalement perdue dans cette histoire-là. Et parce que c'était devenu ultra compliqué physiquement, dans ma tête, ça n'allait plus, quoi. Je savais même plus si j'avais envie d'avoir un bébé, enfin plutôt j'étais vraiment en train de me demander si je voulais bien ça et si j'étais prête à payer ce prix-là pour avoir un enfant. Donc nous avons mis fin avant la fin du processus de PMA à ce processus en nous séparant. Il n'y avait plus de couple et plus de perspective de famille.
Donc ça a duré 10 ans.
J'ai passé 10 ans avec cet homme-là. Le processus de PMA, non, en tout, c'était un peu moins de 2 ans avec ces différentes étapes-là. Mais et du coup, ce couple-là s'est terminé quand j'avais un peu plus de 30 ans.
D'accord.
Donc au moment où autour de moi tout le monde se mettait à avoir des enfants, où les injonctions devenaient plus pressantes, où je me suis entendue dire aussi mais ça va pas te séparer au moment où justement c'est le bon timing pour faire un bébé. Est-ce que tu penses que tu vas retrouver quelqu'un assez vite pour faire un enfant avant que ton horloge biologique périme? Enfin c'est voilà. Ce moment où je n'ai pas entendu que des choses forcément très bienveillantes. Et bon, bah, moi, il a fallu d'abord que je me reconnecte à moi, j'ai fait d'autres rencontres qui m'ont un peu aidée, mais surtout, j'ai fait beaucoup de yoga qui m'a permis de me regarder de l'intérieur vraiment et de me dire, mon corps est à moi et de le laver finalement de tout ce qu'il avait connu comme intrusion du monde médical avec cette trajectoire-là de PMA.
Donc là, tu te dis quoi, toi, au moment de... Bah, tu te retrouves toute seule avec justement tout ce travail psychologique et corporel, physique à faire sur justement ton futur avec des enfants. Tu as des peurs ou pas du tout à ce moment-là?
Je me dis, si j'ai pas d'enfant, ce sera pas grave, mais je veux que mon enfant, si je dois en avoir un, naisse d'une passion. Du coup, j'étais redevenue ultra idéaliste, d'une passion immense et qui naisse sous la couette, quoi. Je m'étais dit, je repasse plus par cette case-là d'intervention médicale pour inséminer. C'était, je m'étais dit, si ça doit être ça, c'est non, en fait. Mmh. Et puis, en parallèle, comme j'avais toujours continué à me renseigner sur la question de l'accouchement, là, j'étais vraiment au taquet. J'avais entendu des récits pas forcément très cool d'accouchement de femmes autour de moi. Donc, j'avais vu aussi tout ce qu'il fallait éviter. Et puis, je m'étais bien renseignée aussi. J'avais creusé les aspects beaucoup plus physiologiques. Donc, je savais comment j'aimerais donner naissance si je devais être enceinte. Et j'avais décidé aussi de comment quelles étaient mes limites par rapport au fait d'être enceinte, quoi.
Une sorte de rejet du monde médical aussi, qui te donnait envie d'avoir un accouchement peut-être plus physiologique.
Oui, mais c'est aussi que j'avais entendu pas mal de témoignages disant que de témoignages d'accouchement naturel, et donc j'avais aucun doute sur mes capacités en tant que femme, qu'être humain, que mammifère. Et donc je me disais, puisque c'est possible, c'est comme ça que moi j'aimerais donner naissance si je suis enceinte un jour.
Alors combien de temps ça te prend pour te retrouver, te réapproprier ton corps ?
Eh ben, il me faut une grosse année pour vraiment me tourner définitivement cette page-là, cette page de bouleversement physique, la page de cette longue histoire d'amour aussi, pour revenir à un sentiment de neutralité, de sérénité et un terrain favorable à une nouvelle histoire. Ouais, une grosse année. Et puis au bout d'une grosse année, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça a été... Une connexion vraiment très forte tout de suite, mais à qui j'ai dit je veux pas m'engager là, il faut que je sois un peu toute seule d'abord, donc je ne suis pas prête à quelque chose de sérieux. Et cet homme-là, qui lui était papa de deux enfants déjà, me dit pas de problème, moi je sais qu'il va y avoir quelque chose entre nous, mais j'attends, c'est toi qui dis, quoi. J'avais raconté un peu par quoi j'étais passée, et donc il m'explique, il me fait comprendre qu'il sera patient et que c'est mon rythme qui donnera le rythme de notre histoire. Et puis en fait, j'ai pas résisté très très longtemps, et en fait, tout était tellement évident. Les leçons aussi que j'avais tirées de ma précédente longue histoire me permettaient de savoir quels étaient les points les plus importants sur lesquels je voulais absolument rien... pas faire de concessions, et puis quels étaient ceux qui avaient moins d'importance. Et donc ça faisait ting 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 comme comme au flipper, et donc je me suis lancée dans cette histoire assez vite, et il m'a dit tout de suite que il pensait qu'on allait avoir des enfants ensemble. Donc au démarrage, moi je me suis dit qu'il allait un petit peu vite en besogne, surtout que lui en avait déjà. Oui. Et puis en fait au bout de quelques semaines, j'ai su que j'allais faire un enfant avec lui.
Et alors, toi, donc, tu te retrouves belle-mère de deux enfants. Comment tu vis ça ?
Alors, c'était des enfants qui étaient déjà adolescents et qui ne vivaient pas en permanence avec leur papa, que leur papa avait pour les vacances. Donc, ça s'est fait assez bien. Ça s'est fait assez bien aussi parce qu'en fait, mon conjoint... et la maman des enfants était en bon terme et fonctionnait en bonne intelligence par rapport aux enfants. Il n'y avait pas d'idée de rivalité, de remplacement, de quoi que ce soit. J'étais juste une personne en plus, et puis une personne qu'ils étaient contents de voir avec leur père. Enfin, ils voyaient que leur père avait l'air d'être bien avec moi, et c'était ça qui les intéressait. Et puis comme ils étaient ados, ils ne cherchaient pas forcément l'autorité. Enfin, ils ont vu un peu si j'allais incarner ça, et je leur ai fait comprendre tout de suite que non, en fait, que pour ça ils avaient un papa et une maman, et que moi je n'allais pas être dans ce rôle-là. Donc les choses se sont faites assez en douceur finalement, et j'ai trouvé que ce rôle-là, il était assez facile et agréable à prendre.
Ça te mettait un premier pas, une maternité qui n'est pas la tienne, mais d'être auprès d'enfants. Suis-toi tout ton parcours déjà de PMA.
C'est-à-dire que j'ai vu aussi comment ces enfants avaient été élevés par leur père. Et je sais que le fait de les rencontrer, de les voir, de passer du temps avec eux, ça m'a confortée dans l'idée que je pouvais ou que j'allais faire des enfants avec mon conjoint. J'avais cet exemple d'éducation réussie, en fait. C'est ça aussi pour moi que ces deux premiers enfants incarnaient.
Et alors, à quel moment vous décidez de faire un premier enfant, tous les deux?
En fait, on l'a décidé vraiment au bout de quelques semaines, on a pris la décision. Enfin, moi, j'ai pris la décision de faire un enfant avec lui, mais je m'en sentais pas physiquement capable. Il m'a fallu, il m'a fallu 4-5 mois de plus. Et quand j'ai dit je suis prête, je suis tombée enceinte à ce cycle-là. Et ça me paraissait tellement pas possible que en fait, je l'ai pas su tout de suite. Parce qu'en fait, j'avais tellement fait de tests de grossesse avant qui marchaient pas, que quand ils étaient négatifs, je me disais mais non, mais c'est le test qui est nul. En fait, je dois être secrètement enceinte. Que là, en fait, à aucun moment je me suis dit ça peut marcher du premier coup. Quoi. Ça me paraissait totalement improbable, ce qui fait que je m'en suis rendu compte quand je sais pas, j'étais enceinte de à peu près 6 semaines. Quoi.
Alors, comment t'as accueilli cette nouvelle?
C'était parfait, c'était la continuité de cette histoire incroyable. J'étais rassurée par le fait qu'il avait déjà eu deux bébés aussi. Je me disais, si moi je sais pas faire, lui il saura faire. Et puis très vite, en fait, je me suis posé la question de comment et où je voulais accoucher. J'habitais à Paris. Et en fait, à Paris, quand on est enceinte de 6 semaines ou 7, le temps de réfléchir, ou 8, j'en sais rien, en tout cas, ça faisait moins de 2 mois, et qu'on appelle une maternité, on s'entend répondre « Madame, là, tout est plein ». Et en l'occurrence, moi, je voulais accoucher au Bluet. J'avais choisi les Bluets. Et on m'a inscrite sur liste d'attente parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait des femmes qui s'inscrivaient quand elles démarraient le projet bébé, en fait. De même que pour la crèche, c'est bienvenu de s'inscrire avant d'être enceinte. Voilà. Et je me souviens avoir dit au téléphone, j'ai eu les résultats la semaine dernière. Je pouvais pas faire beaucoup plus tôt et je n'envisage pas d'accoucher ailleurs. Et on m'a répondu, liste d'attente. De toute façon, il y a des places qui se libèrent, mais on peut rien faire d'autre que liste d'attente. Donc ça, c'était une mauvaise nouvelle en fait pour moi. Et donc j'ai cherché où d'autre est-ce que je pourrais accoucher au cas où. Et je me suis inscrite à la maternité des Lilas, qui a une philosophie vraiment super en matière de physiologie de la naissance. Et j'ai démarré mon suivi là. Et à ce moment-là, il se trouve que j'étais en train d'écrire un livre sur les tout-petits et la musique. Et que pour ce livre, j'interview des chanteuses, des musiciennes, qui m'explique que elles utilisent les intonations graves pour faire passer les contractions, pour se soulager des contractions lors des accouchements. Et l'une d'elles notamment, à qui du coup je dis « bah moi je suis enceinte », l'une d'elles me dit, on discute un peu, que avec ce qu'elle comprend de ma vision de l'accouchement, elle est sûre que je vais accoucher à la maison de naissance. Et alors là, moi je découvre qu'il y a une maison de naissance à Paris, qui est accolée au Bluet, elle s'appelle Le Calme, comme à la maison. Et alors, dès que je rentre de cette interview-là, je me renseigne et on dépose un dossier. On remplissait notamment les critères de situation de l'appartement par rapport à la maison de naissance. Il faut pas être trop loin parce que, après l'accouchement, tu es supposé, si tout s'est bien passé, rentrer à la maison 3-4 heures après. La sage-femme vient te voir. Et il faut pas que tu sois en grande banlieue. Enfin, c'est-à-dire, il faut pas qu'elle mette 2 heures à l'aller, 2 heures au retour. Donc, il y a un certain nombre de critères. Le principal étant quand même que ce soit une grossesse sans aucun problème, qui nécessite aucun suivi médical particulier, aucune pathologie. Mais il y a aussi des critères, plus prosaïques, comme celui de la localisation. Et on remplissait tous les critères et on a rempli un dossier et on est allé à une réunion, d'information, et moi je me disais je veux que mon enfant il naisse là, j'ai trouvé c'est là. Et nous avons eu la bonne nouvelle quelques temps plus tard de savoir que nous étions acceptés en suivi à la maison de naissance. Donc on a fait le suivi avec une seule sage-femme qui nous suivait tous les trois, mon conjoint, le bébé et moi. Donc un suivi vraiment personnalisé dans ce petit cocon accolé à un endroit, une énorme maternité parisienne. Et j'ai passé une super grossesse, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré être enceinte, j'ai eu à peu près zéro nausée. Je me suis sentie surpuissante pendant ça m'a fait ça les deux fois pendant mes grossesses, j'avais vraiment l'impression d'être la personne la plus puissante du monde, absolument intouchable. Je me sentais tellement forte, j'avais tellement confiance en l'avenir, en moi, en mon bébé, en notre future famille. J'ai adoré ce moment-là. Et du coup, comme j'avais tellement envie aussi que ça se voit, j'ai pris 35 kilos. Mais la sage-femme, elle s'en rendait compte. Mais en fait, comme je suis grande, les 35 kilos, ça l'affolait pas. Pas de diabète gestationnel. Je pesais moins de 60. Hein, donc les 35 kilos, ils étaient quand même bien quelque part. Mais notamment, j'avais un ventre énorme parce que j'avais fabriqué énormément de liquide amniotique pour... L'explication qui m'a été donnée, c'était que j'avais vraiment envie que mon bébé soit très, très confortable. Et là où une maman qui fait un déni de grossesse, elle va en produire juste le minimum pour que ça marche pour son bébé, moi, j'en avais produit un max, quoi. Donc, il avait une piscine, mon bébé. Donc, super grossesse jusqu'à la presque fin. Et à la presque fin, on se rend compte que le bébé, il est en siège. Ah. Et bébé en siège, il peut pas naître à la maison de naissance. Donc, au huitième mois, après des tentatives un peu exotiques de retourner mon bébé, avec notamment de l'acupuncture et puis des positions bizarres, on transfère mon dossier à la maternité d'Éblué. Du coup, c'est automatique pour tous ceux qui sont suivis à la maison de naissance. Donc, j'avais arrêté, à partir du moment où j'étais prise à la maison de naissance, j'avais arrêté mon suivi au Lila. Et là, mon dossier passe au Bluet. Donc, c'était à la base mon premier choix. J'ai réalisé ça après la naissance. Et donc, je me retrouve inscrite au Bluet, mais sans être passée par le suivi tel qu'on le fait au Bluet. Et on fait un pelvis scanner qui dit que de toute façon, je pourrais... accoucher par voix basse comme je le souhaite, parce que ça c'était du coup mon souhait, voix basse et sans péridurale, parce que même si j'avais un ventre énorme, mon bébé il n'était pas très gros, enfin il n'y avait pas du tout de contre-indication. Et puis le bébé un soir se manifeste, enfin un soir me réveille dans la nuit, et puis je débarque à la maternité avec mon conjoint après 14 heures de contraction. Et prête, c'était en fin de journée, donc prête à ce que mon bébé naisse dans la nuit ou le lendemain matin. Ravie, j'étais hyper impatiente en fait de le rencontrer. Ça va faire bizarre de dire ça, mais j'ai adoré les contractions.
Ah oui.
Parce que c'était comme si elle me rapprochait de mon enfant. Alors, bien sûr, quand c'était beaucoup trop fort, j'arrêtais de parler. Mais sinon, on a pris le taxi. Je suis pas sûre que le chauffeur ait réalisé que c'était pour accoucher qui m'emmenait à la maternité. Parce qu'en fait, entre les contractions, je discutais. Enfin, comme je discute là, c'était vraiment... je les accueillais avec énormément de bonheur. J'allais vers un accouchement qui me réjouissait. C'était vraiment un très bon moment.
T'avais fait quoi comme préparation à l'accouchement, justement ?
Eh ben, en fait, à la maison de naissance, c'est les entretiens qu'on faisait une fois par mois qui tenaient lieu de préparation à la naissance. J'avais pas, on m'avait pas appris particulièrement une respiration, par exemple. Je continuais à faire du yoga. Donc, dans mon centre de yoga, je faisais du yoga femme enceinte. Pas mal de postures d'ouverture, ce genre de choses. Mais du coup, c'était une préparation individualisée. J'ai fait aucun cours collectif ou essentiellement basé sur la réponse à toutes mes questions pour lever tous mes blocages.
D'accord.
Et du coup, vraiment, le jour de l'accouchement, je suis arrivée, des blocages dans ma tête, il y en avait plus, quoi. Et on a fait comme ils font systématiquement, surtout quand le bébé a été en siège, une écho de présentation. Je savais pas moi si c'était pas retourné au tout dernier moment ou quoi. Et cet écho-là a révélé que mon bébé avait la tête en arrière. C'était un siège défléchi. Et que donc, il n'était même pas envisageable une seule seconde de tenter la voix basse. Donc là, je suis tombée de très haut. le contact hyper fort que j'avais avec mon bébé s'est rompu, enfin s'est interrompu, parce qu'à ce moment-là, on m'a dit en gros, dans une demi-heure, vous avez votre bébé, quoi. Et moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ce que ce soit si vite, à ce que ce soit comme ça. À aucun moment, je ne m'étais dit que la césarienne était une possibilité ou une issue pour moi. Je savais bien sûr que ça existait, et moi, je suis née par césarienne. Mais j'avais l'impression qu'avec la quantité d'informations théoriques que j'avais accumulées, c'était ma préparation à l'accouchement par voie basse. Donc, c'était pas dans ma tête. Et c'est pourtant comme ça que mon bébé est arrivé, effectivement, très peu de temps après. Une rachianesthésie en présence de mon conjoint, et puis un bébé dont j'ai été séparée très peu de temps, le temps de mettre les agrafes, tant qu'il a passé en peau à peau avec son papa, et je suis revenue dans la salle d'accouchement, et là, il est passé de la peau de son papa à la mienne, et nous avons enfin fait connaissance.
Alors, comment t'as vécu le fait de passer de l'idée d'un accouchement physiologique à une césarienne qui tombe comme ça, en fait, on te met au pied du mur
J'y ai pas pensé.
Ouais.
Il m'a fallu un moment avant d'intellectualiser ça. Sur le moment, bah voilà, j'avais mon bébé et c'était allé tellement vite que j'essayais de me repasser le film de cette soirée, de cette arrivée à la maternité. J'aurais voulu que c'ait été filmé ou enregistré, qu'on puisse me raconter dans le détail, parce que je n'arrivais pas à imprimer ça, à me dire que c'était ça la réalité. Et puis, le bébé était là, donc c'était ma préoccupation principale, c'était le bébé. Alors, par contre, au démarrage, je ne savais pas, ne m'étant pas du tout intéressée aux suites possibles de la césarienne, je ne savais pas que tout un tas de choses ayant été interrompues par l'opération chirurgicale allaient mettre du temps à se rétablir. Je ne pensais pas que je n'allais pas être capable de marcher, par exemple, pas être capable d'aller aux toilettes, pas être capable de bouger, tout ça. Donc, je suis passée par des phases un peu désespérées où je me demandais si je serais capable de refaire tout ça à nouveau. Et personne ne m'a dit, bah oui, dans 2 jours, vous vous lèverez, dans 2 jours, vous pourrez aller prendre une douche. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu seule avec ces choses nouvelles. Et puis, pour mon conjoint, c'était la première césarienne aussi. Donc, lui aussi, il débarquait. Pour le coup, il était expérimenté en bébé, mais pas du tout en césarienne. Donc, il ne m'était pas d'une grande utilité sur ce sujet. Mais voilà, la préoccupation, c'était le bébé. Et quand on est sorti de la maternité, en fait, là, je pense que j'ai commencé à pas aller bien. Je me caressais le ventre comme quand j'avais mon bébé. J'avais l'impression que j'avais pas vécu la phase d'accouchement que j'avais tant attendue. Il me manquait une étape, en fait. J'arrivais pas à intégrer le fait que ça s'était passé comme ça, si vite. Et du coup, le fait de rester bloqué dans cette étape non survenue, ça a rendu plus long le temps nécessaire pour que je crée du lien avec mon enfant. Parce que j'ai été très préoccupée de moi, de mon corps et de cet accouchement tel qu'il s'est passé. Et très préoccupée ou préoccupée que par ça, ça prenait tellement de place qu'il n'en restait pas beaucoup pour mon enfant, en fait, dans les premiers temps.
Et alors, ça t'a pris combien de temps, du coup, tu as fait une dépression postpartum ?
Oui, que je n'ai pas diagnostiquée, que personne n'a diagnostiquée, en fait. J'ai cru que cet état-là de fatigue générale, de lassitude physique et émotionnelle ou psychologique, c'était ce que connaissaient toutes les femmes à partir du moment où elles avaient un enfant. Mon bébé, il a fait ses nuits assez vite, en à peu près 2 mois. Dans ces 2 mois, on est parti quand il avait 4 semaines aux États-Unis parce que j'étais invitée pour la francophonie, donc il y avait du décalage horaire, c'était hyper facile. Le décalage horaire et l'avion longue durée avec un tout petit, c'est vraiment hyper facile. Je pense que c'est le meilleur âge pour faire ça. Donc de toute façon, nous les adultes, on était un peu décalés. Et, en fait, sur le plan pratique, les choses allaient bien, quoi. Et je me disais juste que ce sentiment-là que je ressentais en permanence, c'était normal.
Ouais.
Mon conjoint, il voyait que j'étais plus comme avant, que j'avais plus d'énergie, et même s'il me permettait de me reposer, que c'était pas uniquement lié au sommeil perturbé. En fait, il voyait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais moi, j'étais incapable de mettre des mots dessus et de partager ça avec lui.
Et alors, ça a duré combien de temps, cette phase ?
Bah, en fait, moi, je pense qu'elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ma deuxième grossesse. Parce que j'ai pris conscience, en étant enceinte une deuxième fois, et en sentant revenir la force, l'énergie, la puissance que j'avais connue pendant ma première grossesse, mais même avant ça, en me sentant bien de nouveau, je me suis dit, OK, ce que j'ai traversé là, ça vient, quelque chose vient de prendre fin, en fait, et ce que j'ai traversé là, ça n'est pas normal.
Mm.
Mais je m'étais pas dit qu'il fallait que je m'en préoccupe. J'avais eu, 6 semaines après l'accouchement, un rendez-vous à la maternité où on m'avait demandé si j'avais été déçue de mon accouchement. Parce que entre l'inscription en maison de naissance, le suivi en maison de naissance et l'accouchement au bloc, on peut pas faire plus. Je pense si on peut faire plus avec l'accouchement à domicile, mais on est quand même pas mal éloigné. Et j'ai eu besoin de, quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'ai eu besoin. Enfin, ça allait mieux parce que je me suis fait confirmer qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que la césarienne. Pendant ces 6 semaines, je pense que quelque part au fond de moi, j'ai dû me dire si ça se trouve. On a fait ça par facilité. Ou si ça se trouve, on m'a menti. Enfin, voilà, j'avais ce genre d'idée en tête. Et donc, à ce rendez-vous-là, qu'on me dise il n'y avait pas d'autre choix, d'autre possibilité avec la position de votre bébé. La personne que vous avez eue, de toute façon, tente la voix basse si c'est possible. Tout ça, ça m'a fait me dire que, OK, c'était l'accouchement que je devais vivre et qu'il fallait donc que je l'accepte. C'est pas pour autant que j'ai réussi à l'accepter tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai écrit mon roman Linea Nigra parce que je cherchais à comprendre. Je voulais écrire noir sur blanc que j'avais l'impression que j'étais une imposteuse, en fait, par rapport à ces questions d'accouchement, que par rapport à cette théorie de l'accouchement physiologique, ben, moi, j'avais échoué. J'étais vraiment dans un vocabulaire comme ça. Qui est dans mon livre parce qu'il était dans ma tête, hein. J'avais une sensation d'échec très forte que je ne parvenais à partager avec personne. Et puis, j'avais un enfant magnifique. Donc de toute façon, il n'y avait personne pour me demander si quelque chose n'allait pas, à part mon conjoint. Mais comme je n'étais pas capable de dire pourquoi ça n'allait pas, et ben, ça n'allait pas plus loin que ça, quoi.
Est-ce que tu as réussi à te sentir mère dès le début ? Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de mère au-delà de la dépression postpartum ?
En fait, je sais que je l'ai aimé à la seconde où il a été posé sur moi, mais en fait, je pense que je l'ai aimé à la seconde où je suis sortie du labo qui m'a confirmé que j'étais enceinte. J'ai eu l'impression vraiment de ressentir un amour... pas du tout comparable à celui que je ressentais pour mon conjoint, un amour nouveau et c'était vraiment toi et moi contre le monde entier. Enfin, je me disais que c'était un amour infini et que maintenant que je l'avais connu avec lui, ça s'arrêterait pas et je trouvais ça super et je me sentais proche en fait de mon enfant, même si je galérais pour plein de gestes du quotidien, en fait, qui me semblaient pas si faciles et que mon mec faisait, lui, très facilement. Et moi, c'était pas évident, en fait. Donc je l'ai tout de suite aimé. J'ai mis du temps à avoir l'impression que j'étais une bonne mère. Et enfin, du coup, tout ça est lié à la dépression, cause ou conséquence, en fait. Le fait que mon conjoint... y arrivent et prennent d'autant plus le relais qu'ils voyaient que moi, j'étais absente. Ça venait appuyer sur le fait que moi, je me disais, ouais, OK, je suis nulle comme mère. Et puis, de toute façon, si j'étais pas là, ça changerait rien, voire ça simplifierait les choses, quoi. Donc, j'ai eu quand même des pensées assez, sombre.
Ouais.
À mon égard et vis-à-vis de mon bébé. Enfin, moi, j'ai connu des phobies d'impulsion. Je connaissais même pas l'expression. Et ça, je me disais, en fait, je suis en train de devenir complètement folle. Et impossible d'en parler à mon conjoint parce que je me disais, sinon, il va aussi penser que je suis en train de devenir folle. Il me laissera jamais seule avec l'enfant. J'habitais au 6e étage à Paris. Donc, je faisais attention vraiment de ne pas m'approcher des fenêtres. Je me sentais prise de vertige sans même aller sur le balcon à l'approche des fenêtres, à l'idée que, en fait, j'étais pleinement responsable d'un enfant aussi petit, aussi vulnérable et que, qu'il y avait des choses horribles qui étaient à ma portée, quoi. Et ça, si à ce moment-là de ma vie, j'avais su que plein de femmes connaissent ça, notamment en phase de postpartum, et que ça ne signifie pas le passage à l'acte et que ça dure pas longtemps, ça m'aurait fait tellement de bien. Ça, juste de pas penser que j'étais tarée, quoi.
T'es allée voir une psy à ce moment-là ou pas du tout?
Non, parce que sinon il aurait fallu que j'admette que j'avais un problème. Comme je pensais que, enfin, c'est terrible ce truc. Je me disais que j'étais en train de devenir folle. Mais j'aurais pas été capable de le dire à quelqu'un, ça. Et d'ailleurs, quand on me demandait si ça allait, je disais toujours que oui, la preuve, j'ai ce merveilleux enfant en parfaite santé.
Oui.
C'est aussi une question de culture, d'éducation, de pas se plaindre, et puis surtout pas se plaindre en tant que femme ou en tant que mère, en fait, les générations du dessus sont passées par là, ont enfanté sans raconter quel tracas pouvait accompagner l'enfantement, et donc tu fais comme les autres, quoi, tu fais des enfants et tu te tais. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là qui est tellement inscrit en moi que ça m'empêchait d'aller voir quelqu'un pour dire que ça va pas, alors que j'avais osé le faire pendant ma grossesse. J'étais allée voir une psy pour me délester de différentes choses. J'ai fait ça pendant chacune de mes deux grossesses. Donc, c'est bien qu'à ce moment-là, j'étais consciente que j'avais des choses à dire. Mais pendant toute cette phase de dépression, c'est pas venu de manière consciente à mon esprit. Et ça ne m'a pas... ça a pas réussi à me mener dans le cabinet d'un psy.
Ouais. Et alors, tu disais que ça s'était arrangé au moment où tu étais tombée enceinte une seconde fois. À quel moment comment vous décidez de faire un petit deuxième, sachant que toi, tu es toujours en plus finalement en dépression du postpartum?
Moi, je m'étais jamais dit, par contre, que j'aurais un seul enfant. J'avais pas envie d'un enfant unique. Et il y a eu un moment où on a eu envie tous les deux. Il y a eu vraiment une phase où j'étais trop dans mes préoccupations par rapport au premier, que ça fermait la porte à toute possibilité d'un autre enfant. Et puis, il y a eu un moment où c'était très clair. Quand il avait 2 ans et demi à peu près, je me suis dit... c'était pas aussi net dans ma tête, mais je me suis dit un truc genre « je suis prête, quoi ». Je suis prête à recommencer, je suis prête à revivre ça si jamais ça doit se repasser comme ça. Il y avait ça aussi, que juste après la naissance, je m'étais pas dit « je suis prête à revivre ça ». Et quand on se l'est dit un peu plus sérieusement, je suis tombée enceinte tout de suite, et puis j'ai fait une fausse couche le premier mois, à la fin du premier mois, et c'était un œuf clair. Et avec le recul, je me suis dit que mon corps voulait vérifier peut-être que dans ma tête, j'étais prête à y retourner. On avait eu le temps de faire des projections, bien sûr. Et en fait, quand j'ai fait la fausse couche, je me suis rendu compte que j'étais vraiment prête, étant donné l'intensité de la déception, déception qui était partagée, hein, du coup, dans mon couple. Et en fait, je suis retombée enceinte 15 jours après ma fausse couche et je savais même pas que c'était possible. Mais comme j'ai expulsé ce que j'avais expulsé naturellement, on m'avait pas demandé d'attendre, de laisser passer de délai. Le médecin m'avait expliqué que sa mère avait fait aussi des fausses couches pour me rassurer. Et que, en fait, il se pourrait très bien que ça marche au cycle d'après. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on te dit. Et c'est comme tomber enceinte du premier coup, tu vois. Tu dis oui, ça, c'est la théorie. Et puis bah de nouveau, je suis tombée enceinte tout de suite, et ce qui fait qu'il a fallu encore un petit peu de temps avant que je réalise, parce que je pensais pas que c'était possible que ce soit aussi rapide après une fausse couche. Mais voilà, c'était le cas et c'était bon.
Alors comment t'accueilles la nouvelle cette fois-ci ?
Eh ben super heureuse de nouveau. Entre-temps, j'avais changé de région, j'avais quitté Paris pour la Bretagne. Donc aussitôt, ma première préoccupation, c'est aussi de me dire comment et où j'accouche dans ce nouvel environnement. J'habite à la campagne, donc c'était tout un tas de... Alors, depuis que j'avais déménagé, c'était une des premières questions que je posais au moment que je rencontrais, genre, t'as accouché où ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Raconte-moi. Donc, j'avais commencé à me faire une cartographie mentale des endroits où j'avais pas envie d'aller, des endroits qui pouvaient être intéressants. Mais je savais que c'était des dizaines de kilomètres à chaque fois et que le choix, globalement, était plus restreint qu'à Paris. Et par contre, je savais que l'inscription n'était pas du tout urgente. Contrairement à Paris, je savais que je pouvais attendre avant de m'inscrire. Donc, j'ai cherché un établissement et j'ai aussi cherché une personne et j'ai trouvé une sage-femme pour m'accompagner. J'ai été suivie par une seule sage-femme que j'allais voir à son cabinet.
Là, tu repars dans un projet de naissance physiologique ?
Alors, un accouchement en maison de naissance n'est pas possible avec un utérus cicatriciel. Tu vois, pour la première fois, je t'avais dit, dans les critères, il n'y a bien sûr pas de grossesse pathologique et il n'y a aussi pas d'utérus cicatriciel. Ça fait partie des critères requis pour la maison de naissance. Donc ça, je le savais. Je savais que je devais faire mon deuil de la maison de naissance, mais ça, je le savais après mon premier accouchement, en fait. Que, voilà, j'avais eu la chance de faire ce suivi-là, mais accoucher en maison de naissance, il fallait que je tire un trait dessus. Mais par contre, je savais que la voie basse était toujours une option. Sauf que là, j'ai fait toute cette grossesse en me disant « la césarienne est aussi une option ». On m'a dit dès le départ que si je souhaitais une césarienne, je la demandais et je l'aurais. Mais je ne souhaitais pas de césarienne. Donc, je voulais justement trouver un endroit et des personnes pour faire une préparation et être accompagnée dans l'idée d'un accouchement par voie basse, idéalement sans péridurale, enfin comme ce que je voulais la première fois, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé les bonnes personnes, je me suis inscrite dans une première maternité, je me suis désinscrite, je me suis finalement inscrite à la maternité de Redon, quelques semaines avant mon terme, sous la pression de mon conjoint. Moi, je savais que c'était là que je voulais accoucher, et mon conjoint, il me disait, mais il faut que quelqu'un ait ton dossier quelque part. Il n'était pas du tout tranquillisé par le fait que je sois du coup plus inscrite nulle part. Et en fait, j'étais allée faire quelques entretiens sur le conseil de ma sage-femme. Quand je lui avais dit, j'hésite entre plusieurs établissements. Là, je me suis inscrite, mais j'ai entendu des choses qui me font me poser des questions. Elle m'avait dit, demandez à rencontrer une sage-femme ou un cadre de santé dans les différents établissements. Et j'ai fait ça. Et je trouve ça bien de savoir que c'est possible, en fait. Je suis allée faire quelques entretiens. J'en ai fait trois, dans trois établissements, des entretiens d'une heure avec quelqu'un, en disant, voilà, moi, mon projet de naissance, c'est à peu près ça. Et vous, quelle est votre philosophie de la naissance ? Et c'est comme ça que j'ai trouvé la maternité. Quand je suis sortie de l'entretien avec la sage-femme à Redon, je savais que c'était là, en fait. Et j'avais pris la peine d'écrire mon projet de naissance pour me mettre au clair avec ce que je voulais, en priorisant les choses. On l'avait rédigé à deux avec mon conjoint. Mais on avait hiérarchisé les choses pour savoir ce sur quoi on se sentait prêt à lâcher, me concernant ou concernant le bébé, en fonction, et ce qui était non négociable. Il fallait d'abord qu'on soit d'accord, nous deux, à la lumière aussi de notre première expérience, en cas de voix basse, en cas de césarienne. Donc on a écrit tout ça, et j'ai apporté tout ça à la maternité de Redon, prête à batailler. J'ai pas du tout eu besoin de batailler, parce que ce que je souhaitais, en fait... entrait pile dans leur vision de l'accouchement, de la naissance. Et donc, je savais que ce serait là que ça se passerait le jour J.
Et alors, comment ça s'est passé le jour J ?
Eh bien, après avoir donc, dans la préparation de la naissance, envisagé aussi un peu la césarienne avec la sage-femme, eh bien, ça a beaucoup ressemblé à la première fois. Il y a eu de nouveau 14 heures de contraction. J'ai négocié un truc, c'est que je ne voulais pas que la césarienne soit programmée. si ça devait être une césarienne, parce que, en fait, mon bébé était de nouveau en siège. Donc, j'ai refait 1000 choses, acupuncture et compagnie, pour essayer de le retourner. Ça passait pas. Le pelvis scanner restant valable, on m'a dit, il y aura pas de problème pour tenter la voix basse, à condition que vous ne dépassiez pas le terme. Mon premier bébé était né 2 ou 3 jours avant le terme. Et donc, là, on m'avait proposé de programmer une césarienne avant le terme, et j'avais dit non, je suis d'accord pour accepter la césarienne s'il n'y a pas d'autre choix, mais le jour du terme, pas avant, je veux laisser une chance à mon bébé de décider lui-même du moment où il sortira. Et j'ai beaucoup parlé à mon bébé, et je lui ai dit que ce serait vraiment bien qu'il arrive avant le terme, et il est arrivé juste avant le terme. Donc, c'était parfait. Après 14 heures de contraction, et quand je suis arrivée, prête avec mon pelvis scanner à la main, prête à accoucher par voix basse, en pleine nuit, écho de présentation qui a révélé que cet enfant s'était positionné, comme je le sentais, en hamac, en transverse. Donc, il n'appuyait même pas sur le col. Un bébé qui est en transverse, je l'ai appris à ce moment-là, en fait, si on fait un toucher vaginal, les sages-femmes ont l'impression que la maman n'est pas enceinte parce que il n'exerce pas de pression sur le col, qui ne se dilate même pas, donc malgré les contractions, quoi. Donc, une fois de plus, on ne tente même pas une voix basse. On est obligé, pour un bébé en transverse, de faire une césarienne, et le médecin est obligé de faire une manœuvre, en fait, de le retourner. Ils sont jamais pile à l'horizontale, donc de retourner soit vers le haut, soit vers le bas, en fonction de leur petite inclinaison quand même, avant de faire sortir. Donc, aucune autre option possible que la césarienne. Mais en fait, là, je m'étais dit que c'était possible, que ça se termine comme ça. Donc, dans ma tête, c'était beaucoup plus simple, et je n'ai pas eu ce choc, et je n'ai pas coupé le contact de discussion intérieure avec mon bébé, contrairement à la première fois. Et ça allait tellement bien que j'ai réussi à dormir avec les contractions. J'ai laissé l'équipe de garde finir sa nuit parce que je préférais qu'ils soient en forme. Du coup, au matin, il y a, je sais plus si c'était 2 ou 3 couples qui sont arrivés avec des césariennes d'urgence. À chaque fois, le gynéco venait voir en me disant, vous tenez toujours? Parce que là, urgence vitale, machin. Je disais, oui. Je me disais, les contractions, que, une fois de plus, j'ai vraiment kiffé. Je me disais, elle prépare bien mon bébé, ça va compenser d'une certaine manière ce qu'il ne vivra pas avec la sortie par voie basse, ça va préparer son corps, ses défenses immunitaires, ses poumons, tout ça. Enfin, je me disais, prends tout ce que tu peux en temps, en contraction. Voilà, moi je tiens, mais c'était pas du tout un sacrifice. Vraiment, j'ai aussi aimé très fort ces contractions-là. Et puis j'ai fini par rentrer au bloc. Une fois de plus, mon conjoint était là. Une fois de plus, ça a été difficile pour la rachianesthésie. J'avais du mal à me détendre. Et puis une fois de plus, très vite, mon bébé a été là. Et pareil, une deuxième submergée par l'amour pour ce deuxième à la seconde, quoi. Ouais. Avec une différence majeure au moment de la césarienne, c'est que le gynéco, je l'avais déjà vu. Je l'avais vu avant. Il m'avait parlé. Je connaissais son nom. On s'était regardé dans les yeux. C'était même avec lui que j'avais négocié pour que la césarienne ne soit pas programmée. Et il m'a proposé de faire sortir mon bébé par un mouvement de l'abdomen. Et il m'a dit, madame, à vous. Et j'ai poussé pour faire sortir mon bébé.
Incroyable.
Je savais que ça existait. J'avais cherché sur Internet où est-ce qu'on pouvait faire ça en France. Puis j'avais vu qu'il n'y avait que 2 endroits, pas par chez moi. Donc je t'ai dit, bon, OK. Et en fait, lui, il m'a proposé de le faire. Et j'ai vraiment donné cette impulsion que j'ai sentie, moi, malgré la rachianesthésie. Et que eux ont senti, parce que c'est à ce moment-là qu'il a attrapé l'enfant. Et donc, j'ai participé à cet accouchement, alors que ça n'avait pas été le cas la première fois. Et je pense aussi que c'est ce qui a tout changé pour la suite, parce que j'ai pas eu l'impression que je subissais cet acte incompréhensible, et puis quand même caché par des champs, donc que je peux imaginer, mais dont je saurais jamais exactement comment il s'est passé. Là, j'ai décidé du moment où mon enfant allait sortir de moi avant que qu'il passe de l'autre côté des champs et que on me le pose dans le cou.
Wow. Je savais pas que ça existait non plus.
En fait, ils s'en vantent même pas. C'est pas un argument de en faveur de la maternité. C'est pas écrit sur le site. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est l'initiative de ce médecin ou si c'est quelque chose de partagé par l'équipe. J'ai pas posé la question. Et d'ailleurs, il faudrait que je la pose parce que je suis toujours en contact avec avec la maternité, comme j'écris des fois des choses là-dessus. Mais je ne sais pas si c'est une directive partagée par tous les gynécos ou si c'est cet homme-là formidable qui a changé la suite en fait de ma vie finalement, qui a décidé que ça coûtait pas plus cher de demander ça aux mamans. En tout cas, c'est pour avoir vécu ça et avoir vécu la césarienne dans laquelle on est vraiment passive, c'est radicalement différent. Et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, à la fin de cette opération-là, je me suis dit, je suis prête à recommencer. Alors que après la première fois, il fallait pas me parler d'un autre accouchement possible. Là, à la maternité, j'ai pas arrêté de me dire, il y a rien d'insurmontable. Bon, j'avais décidé de, en voyant mon bébé, j'ai vu ma famille, j'ai su qu'elle était complète et je savais que je voudrais plus d'enfants, mais sur le plan de mon corps à moi et sur le plan médical, je me suis dit une césarienne comme ça, même si c'est un acte chirurgical, que c'est au bloc et que c'est lourd, je resigne demain sans problème.
Et est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à l'après, donc au postpartum, de revivre toute cette traversée un peu du désert que tu as eu pour ton premier?
C'est-à-dire que tout ce qui me paraissait des empêchements définitifs la première fois, là, du coup, je savais que ça allait revenir. Je savais qu'en fait, à un moment donné, je serais de nouveau sur pied, que je serais capable de marcher jusqu'à la douche, de retourner aux toilettes toute seule. Et donc, je prenais les choses avec vachement plus de philosophie. Je me disais, OK, bon, bah là, pendant 48 heures, c'est comme ça. Et c'est pas grave. Et la première fois, la césarienne, j'ai pas pu ni la toucher ni la regarder pendant des mois. Ce qui fait que ma césarienne, elle ne bougeait pas. Les gens la regardaient. Enfin, les gens, je montrais pas ma cicatrice à la terre entière. Mais les médecins ou mon conjoint, tout le monde me disait elle est belle, très bien. Je savais qu'il n'y avait pas de problème. Et là, la maternité, la deuxième fois, il y a une personne bien intentionnée, je ne sais plus si c'était une sage-femme, qui m'a conseillé de la regarder. Donc j'ai dit, pas question. Et elle m'a dit, moi je sais qu'elle est moins pire en vrai que dans votre tête. Et cette personne m'a aussi poussée à aller prendre une douche, je crois dès le premier jour, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Et il n'y avait pas de douche dans les chambres, dans cette maternité. C'était des douches collectives, donc il fallait marcher un peu. Au début, je m'étais dit la flemme quoi, de me lever et tout ça. Et en fait, d'y aller, de marcher à tout petits pas, en claquette, dans le couloir, en me tenant au mur au cas où, mine de rien, je me suis remise en mouvement. Quand je suis arrivée dans les douches, j'ai fermé un œil et puis j'ai regardé en fait dans le miroir et elle avait raison. C'était beaucoup plus petit et beaucoup moins moche que ce qu'il y avait dans ma tête. Et j'ai eu l'impression de faire un pas de géant, de gagner à ce moment-là, à cette douche-là, de gagner 6 mois par rapport à mon premier accouchement. Et je suis rentrée de cette douche en me sentant du coup prête, puisque ces questions-là n'étaient plus des gros trucs nébuleux dans ma tête. J'étais beaucoup plus prête à m'occuper de mon bébé, en fait, et à m'occuper de cette relation naissante, de ce lien que j'avais commencé à tisser avec lui. Et en fait, j'ai su à ce moment-là que j'allais pas replonger dans la dépression.
Donc là, tu rentres à la maison, maman de 2. Comment ça se passe ?
Eh bien, ça se passe beaucoup plus facilement que la première fois. Je trouve que tout est plus facile que là où j'avais l'impression d'avoir le temps de rien avec un au début, avec deux, tout s'organise à merveille. Je ne sais pas par quel miracle, tout est fluide. Que ce soit le jour, la nuit, le fait de malgré tout mettre le réveil parce que l'aîné avait de l'école, Alors que la première fois, on était vraiment calé sur son rythme à lui, puisque je travaille à la maison. Et ben là, tout était simple. Ça marchait. C'était, j'avais toujours mon bébé avec moi, mais aucun problème. Et puis j'avais allaité avec un peu de difficulté la première fois. Et là, la deuxième fois, à la maternité, quand j'ai compris que ça allait être difficile, j'ai pris la décision d'arrêter l'allaitement, de m'affranchir de toutes les remarques à ce propos-là. Et je voulais pas qu'il y ait de la douleur dans la relation à mon enfant. Je voulais pas qu'il sente ma crispation à l'idée, justement, avec l'appréhension de la douleur. Je voulais que ce soit juste doux. Et je me suis félicitée, mais pendant des semaines d'avoir pris cette décision à ce moment-là, parce que du coup il y avait rien qui crispait notre relation à aucun moment. C'était facile, c'était du coup beaucoup plus simple aussi avec mon conjoint pour les biberons de la nuit notamment. Vraiment, j'ai trouvé qu'avec deux tout était plus simple qu'avec le premier.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion pour écrire La Remplaçante, donc le livre que tu viens de sortir là avec Matou, qui illustre ce livre, cette bande dessinée.
En fait, à la maternité, quand je suis revenue de la douche, j'ai croisé une maman qui était là. Je savais que les autres mamans présentes avaient eu aussi des césariennes, parce que c'était les césariennes d'urgence que j'avais laissées passer, qui étaient là en même temps. C'est une petite maternité, il n'y a pas beaucoup de mamans. Puis les papas s'étaient parlé au petit déjeuner, parce que cette maternité a l'idée formidable de proposer un petit déjeuner en libre accès. C'est les papas qui viennent chercher à l'heure qu'ils veulent, et ça c'est quand même super cool. T'es pas réveillé par le petit déj au moment qui t'arrange le moins, bref. Et j'ai croisé cette maman et je lui ai dit bonjour, et elle m'a pas répondu, mais elle pouvait pas me regarder. En fait, j'ai vu un visage hyper fermé. Moi j'avançais pas vite, mais elle avançait encore plus lentement que moi. Et je me suis dit, cette meuf-là, c'est moi, il y a 3 ans et demi, en fait, qui comprend pas ce qui s'est passé. J'ai imaginé plein de choses parce que ben, je suis écrivaine, hein, j'imagine des trucs. Et j'avais envie de lui dire, on s'en remet. Et même, si ça se trouve, 3 ans après, on décide qu'on va recommencer, tellement on peut s'en remettre et continuer à vivre avec ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de... ce que j'ai compris de mes deux accouchements, et j'ai voulu écrire en fait le livre qui m'aurait fait du bien, l'histoire qui m'aurait fait du bien la première fois, qui m'aurait fait me sentir moins seule et qui m'aurait fait comprendre que oui, c'est un truc qu'on traverse, que c'est pas formidable à chaque instant, mais qu'on s'en remet et que c'est pas grave du tout, et que si tout n'est pas immédiat ou instinctif, et ben c'est pas dramatique.
Ouais.
Et donc là, à ce moment-là, vraiment l'idée de l'histoire est née, et j'ai commencé à l'écrire. J'étais encore en postpartum. Mon bébé, il avait 3 mois quand j'ai su exactement quelle forme j'allais donner à cette histoire, et qu'elle est sortie très vite, parce que à ce moment-là, c'était vraiment une nécessité impérieuse.
Alors, un petit résumé pour les auditrices de La Remplaçante.
Eh bien, La Remplaçante, c'est l'histoire de Marquetta qui rencontre Clovis. C'est l'homme idéal à ceci près qu'il a déjà deux petites filles, qu'il a eues avec une autre femme. Et leur amour est tellement grand que vite, ils décident de faire un bébé. Et l'accouchement ne se passe pas exactement comme Marquetta l'avait imaginé. Et surtout, eh bien, dès le lendemain de l'accouchement, elle se rend compte qu'elle ne sait pas quoi faire avec ce bébé-là, qu'elle ne sait pas quoi faire avec son corps qu'elle associe à une zone de guerre. Et elle n'est pas sûre qu'elle va être capable de s'en occuper. Alors que Clovis, lui, fait tout avec grande facilité. Elle a l'impression que cet instinct maternel qu'elle est supposée avoir, elle ne l'a pas, que c'est son mec qui l'a. Mais elle, chez elle, elle l'attend et il ne vient pas, et elle ne se sent pas légitime en tant que mère, et elle sombre dans la dépression postpartum.
Oui, donc c'est complètement inspiré de ton expérience à toi, et l'idée, c'est d'apporter des solutions et d'avoir l'outil que toi, tu n'as pas eu quand tu as traversé ta dépression postpartum.
Ouais, c'est inspiré de mes deux expériences en fait de postpartum. Et l'idée, c'est oui, de dire que ça peut être difficile et qu'on peut avoir des pensées sombres, qu'on peut avoir des difficultés physiques ou psychologiques. Et en apportant ça sous la forme d'un livre, j'espère que ça peut aider individuellement, que ça peut devenir un support aussi de discussion et que et ça peut pousser les jeunes mamans qui en éprouvent le besoin à demander de l'aide, c'est-à-dire ce que moi j'ai pas osé faire, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Je pense que la maternité, ça m'a donné une assez grande confiance en moi. Et après des débuts chaotiques et un fort sentiment d'illégitimité, ça m'a rendue vraiment légitime. Je pense que je me sens pleinement mère depuis que j'ai deux enfants, ou avec l'arrivée du deuxième. Et ça me donne beaucoup de force pour affronter pas mal de choses de l'existence, en fait. C'est comme si c'était devenu un socle, aussi un socle de mon identité, certainement. C'est quelque chose de solide, c'est une fondation de ma personnalité. Donc, tout ça est plutôt positif.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman bretonne ?
Être une maman bretonne, c'est aller manger des galettes à la crêperie. Très vite, en fait. Hein, mes enfants, ils sont allés à la crêperie très vite. Être une maman bretonne, c'est surtout avoir un jardin, ce que je n'avais pas à Paris, et pouvoir aller à la plage, faire sentir le sable sous les pieds, se baigner, être plus près de la nature d'une façon générale et aussi de l'océan.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré en Bretagne ?
Ben, je pense que c'est la plage, parce que en fait, quelle que soit la saison, quelle que soit la météo, en fait, il y a des choses à faire sur la plage, aussi bien marcher en bottes ou manger du sable ou ramasser des coquillages. C'est vraiment un endroit accessible à tout moment, et puis sur le fait d'avoir la plage à proximité aussi, ça rend plus simple le fait d'y aller pour pas longtemps. Il n'y a pas l'idée de rentabiliser le temps qu'on veut y passer parce qu'on a fait de la route ou parce que c'est une fois dans l'année. Là, on y va assez facilement, et quel que soit l'âge des enfants ou même des adultes, en fait, ça a toujours beaucoup, beaucoup de succès.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Ben, mes projets rien que pour moi sont liés à l'écriture. J'ai un roman qui parle d'utérus, qui s'appelle Hystérique, et qui est paru au mois de juin. Et puis, je suis en train de travailler sur une biographie de la chanteuse et musicienne Nina Simone, qui paraîtra début 2022, qui m'oblige à réfléchir sur la couleur de ma peau. C'est assez passionnant. Et en famille, eh bien, les projets, globalement, je n'envisage pas de faire les choses autrement qu'en famille, en fait. C'est quelque chose qu'on partage dans mon couple avec mon conjoint. On s'est dit que, puisqu'on avait décidé de faire des enfants, c'est pas pour les confier en permanence à d'autres personnes. Ils sont déjà avec d'autres adultes que nous, avec la crèche ou l'école pour les besoins de nos vies professionnelles. Mais en dehors de ça, on essaye de passer un maximum de temps ensemble.
Merci beaucoup Sophie.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.